Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé le jeune Jules Verne, âgé de 23 ans, dans le secret de sa chambre parisienne, où il a pris la décision ferme de se consacrer à la littérature. Il a réussi à convaincre ses parents. Ses frères et sœurs ont eux aussi renoncé à le dissuader d'embrasser la carrière hasardeuse d'écrivain. Seconde partie, une rencontre providentielle. Malgré les incertitudes pesant sur la carrière de son fils, M. Verne père continue d'échanger avec lui des lettres pleines d'affection et d'humour. Dans ce jeune homme plein d'espoir et de doute, qui balbutie entre théâtre et poésie, où donc se trouve le futur Jules Verne? Le Jules Verne qui deviendra l'auteur le plus lu au monde, celui du Nautilus et du Capitaine Nemo, l'immortel créateur de Michel Strogoff et de Phileas Fogg. Nous sommes à présent en 1855. Jules a 27 ans. Il travaille pour le théâtre, écrit des livrets d'opéra et des pièces comiques. Ses revenus sont si maigres que chaque lettre à son père contient une demande d'argent, en prose ou en vers.
« Mon cher papa, ma chère maman, je suis en plein déménagement. Et puis, pour surcroît d'agrément, je ne sais pas du tout comment je m'en tirerai promptement. Ce sont des vers, évidemment. » « Mon cher papa, ma chère maman, j'ai d'une soixantaine de francs un besoin vraiment très pressant. »
Des vers auxquels son père répond lui aussi en poésie.
« Tes vers ont bien de l'agrément, mais ils seraient bien plus charmants s'ils ne coûtaient 60 francs. »
Pour tous ses proches, il est acquis que Jules Verne s'est voué définitivement au théâtre. Il a rencontré un musicien, Aristide Ignard, pour qui il écrit des chansons. Chaque année apporte sa moisson de comédies dont le sort commun sera d'être à peu près toutes oubliées. Pourtant, parmi la bonne quarantaine de pièces écrites par Jules Verne, se trouve un ouvrage, en apparence anodin, qui sera la graine d'où germera plusieurs années plus tard l'œuvre immense qui apportera la gloire à son auteur. Il s'agit d'un court texte intitulé « Un drame dans les airs ». Pages prophétiques dans lesquelles se dessine très nettement le Jules Verne qui naîtra une décennie plus tard. Il y est question de montgolfière, de science, de folie. La nouvelle, composée peu après la passion malheureuse de Jules Verne pour Herminie, porte les stigmates du désespoir. Publiée de manière confidentielle, cette nouvelle passe totalement inaperçue. Jules Verne, qui a foncé tête baissée dans sa charge d'auteur de comédie, s'obstine à faire représenter des pièces qui ne font rire personne et qui ne lui rapportent rien. Il finit par chercher à se marier à tout prix, de préférence avec une riche héritière. Dans certaines lettres, il ne cache pas son découragement, sans se départir de cet humour dont il fait le gardien de sa vocation. Et puisque son père lui a fait sentir que ses finances commençaient à s'épuiser, il lui vient l'idée d'investir en bourse. Pour ses parents, c'est une lubie de plus et une catastrophe assurée. Qu'il renonce à ses jeux d'argent qui n'ont pour perspective que la banqueroute.
Renonce à ses chimères, tu vois bien que tout cela ne mène à rien.
On propose à Jules Verne de se faire agent de change. Il refuse tout d'abord. Au même moment, le hasard qui parfois fait bien les choses provoque sa rencontre avec la femme providentielle qui vient l'apaiser. Les choses ne traînent pas. En décembre 1856, Jules se marie avec une jeune veuve de 26 ans, mère de deux enfants.
« Nous nous contenterons d'une messe furtive à 8h du matin. Nous dînerons ensemble au restaurant, nous irons au spectacle après, et la noce sera finie. Voilà ce que je désire, ni plus ni moins. Je ne préviendrai pas un de mes amis, sauf Ignard. » Pas de fracas, pas de dépenses, la noce est à mon compte. Hein, comme je deviens homme d'affaires.
On ne saurait être plus expéditif en amour. Marié, Jules Verne finit par déposer les armes et se rendre à l'évidence. Son métier d'auteur dramatique ne le mène nulle part. Il abdique. Il finit par accepter la charge d'agent de change que son père lui avait trouvée. Mais il éprouve tout de même le besoin de justifier ce renoncement à sa vocation.
Ce n'est point un découragement littéraire, puisqu'il n'y a aucune raison à être découragé. Mais c'est une simple question d'argent, de bien-être, de position.
Par un extraordinaire concours de circonstances, c'est précisément lors de ces mois où il renonce à écrire que Jules Verne rencontre celui qui va faire de lui l'immense auteur que nous connaissons, Pierre-Jules Hetzel. Jules Verne fréquente alors depuis quelques mois un aventurier déjà connu du monde littéraire, Alfred de Bréa. C'est par lui qu'il rencontre Pierre-Jules Hetzel, qui est déjà son éditeur. Cet Hetzel, républicain convaincu, a déjà fait ses armes dans la lutte pour les idées nouvelles apportées par la Révolution de 1848. Il a été le chef de cabinet de Lamartine. Il a publié clandestinement Les Châtiments de Victor Hugo et a défendu Baudelaire durant le scandale des Fleurs du Mal. Il est de ces éditeurs de grande classe, pourvu d'un flair très sûr et capable de défendre au prix de sa réputation un auteur dans lequel il croit. Jules Verne, sans doute sur les conseils d'Alfred de Bréa, lui remet un manuscrit, Voyage en Angleterre et en Écosse. L'éditeur le refuse. Que s'est-il passé dans l'esprit de Jules Verne pour qu'à peine quelques mois plus tard, il propose à l'éditeur un roman intitulé « Voyage en l'air », roman tranchant si radicalement avec 5 années de production théâtrale. Le fait est qu'Hetzel accepte le manuscrit, à condition que Jules Verne le remanie et qu'il le nomme « 5 semaines en ballon ». Le 15 janvier 1863, le roman sort en librairie et déchaîne l'enthousiasme à Paris, puis partout en France, puis au-delà des frontières. Son auteur, un écrivain de 35 ans, entre de plein pied dans la gloire après 15 ans d'obscur labeur. La critique qui commande 5 semaines en ballon est dit dithyrambique. On compare Jules Verne aux auteurs de Robinson et Gulliver. Le récit mêle science, histoire, géographie. Pour la première fois depuis le siècle des Lumières, un auteur semble capable de réconcilier l'esprit scientifique et la rêverie. L'imagination des lecteurs s'embrase. Les 2000 exemplaires imprimés sont vendus en quelques jours. Jules Verne ne semble pas particulièrement secoué par ce succès foudroyant. Tout se passe comme s'il était l'aboutissement logique de 10 ans de travail. Pourtant, à travers la publication de ce premier best-seller, on assiste à la rencontre, rare et toujours émouvante, d'un homme avec son temps. S'il reste par ses origines un homme de l'Ancien Régime, il est attaché à cette croyance typiquement révolutionnaire que le progrès peut sauver l'humanité. Hetzel va lui donner l'occasion de toucher terre en poussant ses traits de caractère à l'extrême. Les 3 révolutions qui ont secoué la France en 1789, 1830 et 1848 ont été intellectuelles, politiques, sociales. Il ne manque plus à la Révolution que le ralliement de l'esprit scientifique. Hetzel l'a bien compris. En 1853, l'Europe a déjà connu nombre de découvertes d'importance. La machine à vapeur en 1767, la montgolfière en 1783. Les premiers sous-marins ont été expérimentés dès l'époque de Napoléon. Les bateaux à vapeur ont ouvert la voie de l'Atlantique en reliant régulièrement la France et l'Amérique. Et en 1844, c'est le télégraphe électrique qui fait son apparition, avec la première ligne Paris-Rouen. Hetzel ne se contente pas de publier un simple roman de Jules Verne. Porté par la certitude que le progrès technique doit se faire l'émissaire des idées de la Révolution sur toute la planète, il fait signer à l'auteur un contrat qui l'oblige à rendre 2 ouvrages par an. Jules Verne reste libre de ses sujets, bien sûr. Mais Hetzel le convainc qu'il ne doit pas hésiter à traiter tous les domaines de la science. Juste après 5 semaines en ballon, Jules Verne rend à Hetzel un roman d'anticipation intitulé « Paris au XXe siècle ». Le ton apocalyptique du récit, la noirceur des descriptions, le pessimisme des protagonistes vont mettre Hetzel hors de lui. Mais non, ce n'est pas là le roman de l'avenir. Non, le progrès scientifique ne peut pas engendrer le chaos. C'est l'occasion pour lui de mettre les points sur les i. Les héros de ses récits doivent être des scientifiques éclairés et habités par une foi invincible dans le progrès. Le ton des ouvrages doit être à la fois journalistique et technique. Il faut qu'on y trouve la légèreté du reportage, la rêverie du roman et le sérieux de la science. Résultat des courses, Paris au XXe siècle n'est pas publié. C'est dans cette idée de coller à la réalité et à l'actualité que Jules Verne publie ses ouvrages suivants. Immédiatement, après 5 semaines en ballon, il rend « Les aventures du capitaine Hatteras », au moment même où l'on envisage de gagner le pôle Nord. Puis « Voyage au centre de la Terre » paraît alors que le paléontologue Jacques Boucher de Perthes, fondateur de la science préhistorique, révèle ses premières découvertes. En 40 ans, ce ne sont pas moins de 62 romans qui vont être publiés par Hetzel, répartis sur 6 contrats d'édition. Tous les aspects, ou presque, de la science y sont abordés. L'aviation, l'astronautique, la géologie, l'urbanisme, la chimie, l'armement, la balistique, le cinéma, les transports, les médias. En 1867, Jules Verne entreprend l'écriture du roman qui fera sa célébrité dans le monde entier, « 20 000 lieues sous les mers ». Il a 40 ans et a déjà publié 10 de ses voyages extraordinaires, dont « De la Terre à la Lune ». Le moment est venu pour lui de revenir aux rêves de son enfance. Son paradis, sa terre promise ont toujours été la mer. Il va commencer à voyager. Quant à son nouveau récit, il y bouscule les habitudes acquises dans les précédents. Hetzel lui a enjoint de ne créer que des personnages positifs. Il lui a fait bannir le ton pessimiste, la posture tragique. Jules Verne s'est toujours exécuté de bonne grâce. Mais dans 20 000 lieues sous les mers, il prend sa revanche sur une jeunesse marquée par les passions malheureuses et les échecs littéraires. Son personnage principal, le capitaine Nemo, et ce héros obscur et redoutable qu'il rêvait de créer depuis sa première nouvelle, un drame dans les airs. Nemo conjugue en effet tous les traits de l'anti-héros. Il n'est pas européen, il est indien. Son nom même signifie « personne ». Il n'est habité par aucune espérance, si ce n'est celle de se venger de l'Angleterre qui a tué sa famille. Jules Verne se met au travail avec enthousiasme. Il veut d'abord appeler son livre « Voyage sous les eaux ». Il y travaille depuis son bateau, le Saint-Michel. Et oui, l'argent de ses livres lui a permis de faire construire son propre bateau qu'il a transformé en cabinet de travail. De quoi se mettre dans l'ambiance. Comme souvent, c'est Hetzel qui lui suggère le titre définitif de l'ouvrage « 20 000 lieues sous les mers ». S'il est devenu un écrivain scientifique, il ne s'illusionne pas pour autant sur ses limites. Il confesse à son père espérer que toutes les invraisemblances du récit paraîtront vraisemblables. Et il demande à son frère Paul, officier de marine, de faire la chasse aux erreurs. De fait, les invraisemblances ne manquent pas dans ses récits de voyage. Comme ce passage en « De la Terre à la Lune » où les héros jettent leurs déchets par le hublot de la fusée, ou quand ils trinquent dans l'habitacle comme s'ils étaient sur Terre et non en apesanteur. En 1869, Hetzel suggère à Jules Verne de se présenter à l'Académie française. Il tente donc plusieurs fois sa chance, sans succès. Malgré le triomphe que remportent ses livres, il a le sentiment de ne pas être reconnu comme écrivain. Dans ses lettres, on sent une pointe d'amertume.
Le grand regret de ma vie est que je n'ai jamais compté dans la littérature française.
À la fin de sa vie, installé à Amiens, miné par le diabète et les tracas que lui donne un fils unique criblé de dettes, il se mure dans le silence. La mort de son père puis de son frère Paul, qu'il chérissait, le frappe de mutisme. Il reste des semaines assis, hagard, le regard perdu dans le vide. En 1905, année de sa mort, Jules Verne est devenu le double de son héros préféré, le capitaine Nemo. Englouti, 20 000 lieues dans les profondeurs de la nostalgie, il quitte le rivage des hommes le 24 mars 1905 à Amiens, leur laissant en cadeau les rêves épiques de son enfance. C'est la fin de ce double épisode consacré à Jules Verne. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.